Bon midi, mesdames, messieurs. Vous êtes remis de la tempête de neige, j'espère. Bienvenue à la tribune. À l'émission aujourd'hui, gardez le moral. Gardez le moral. Comment conserver le moral après 2 ans d'une pandémie qui n'en finit plus? Je sais pas, moi, lecture, plein air, sport, cuisine, activité familiale, yoga, méditation. Comment rester zen? Je suis sûr que vous vous êtes déjà posé la question. On va prendre les trucs de 11 Sorellois et Sorelloises tout de suite après la pause. Restez là.
En cas de symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, vous devez passer un test rapide de dépistage à domicile. Si le résultat est positif, isolez-vous à la maison et respectez les consignes d'isolement. Si vous n'avez pas de test rapide, isolez-vous selon la durée prévue. Consultez québec.ca/isolement pour connaître toutes les consignes. Un message du gouvernement du Québec.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu et de Lucie Dale Parizeau.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
Comment conserver le moral après 2 ans d'une pandémie qui n'en finit plus? Je prends aujourd'hui les trucs de 11 Sorelloises et Sorellois, en commençant par Céline Gariépy, éducatrice physique bien connue. Bon midi, Céline.
Bon midi à vous.
Alors, faut que je débute en te demandant si tu as toi-même, après 2 ans de crise sanitaire, su garder le moral?
Oui, effectivement. Je crois que mes élèves m'aident beaucoup aussi à garder le moral. Je pense qu'on fait une belle équipe avec les vidéos que je fais. Ça rend tout le monde de bonne humeur.
As-tu pu, à date, échapper toi-même au virus et à ses variants?
Oui. Très contente, d'ailleurs.
Chanceuse. T'as tes 3 doses?
Non, je vais l'avoir vendredi.
Bon. Alors, quelle est ta recette pour garder le moral? Je devine que l'exercice en fait partie.
Effectivement. D'ailleurs, on sait que l'exercice a beaucoup d'impact sur les hormones au niveau des neurotransmetteurs pour transmettre la joie, la bonne humeur. Donc, c'est sûr que faire de l'activité physique, là, à coup sûr, ça rend de bonne humeur.
Bon. Et parle-moi donc de ces rendez-vous dans les parcs que nous fixe la MRC, un parc différent, d'une municipalité différente de la MRC pendant des semaines et des semaines.
Oui, c'est conjointement avec la municipalité, les municipalités et les MRC. Alors, ils ont décidé d'utiliser les parcs pour donner des cours l'été aux gens qui sont âgés de, j'aurais tendance à dire 50 ans et plus, pour les amener à bouger plus, à faire découvrir les parcs. Alors, c'est des cours d'activité physique qui sont vraiment adaptés pour cette clientèle. Et en général, toutes les municipalités ont embarqué. Et à chaque parc, il y a un cours. Alors, ça peut être un cours d'une heure et demie environ par endroit. Et les gens peuvent se déplacer. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les gens, en plus de faire de l'activité physique, visitent la région. Donc, ils peuvent très bien suivre un cours à Saint-Joseph. Et les gens de Saint-Joseph peuvent aller le suivre à Sorel ou aller le suivre à Yamaska ou à Saint-Robert. Alors, les gens se promènent, font beaucoup de social aussi. Alors, ce qui est très important pour le moral.
Est-ce qu'il faut être très fort pour s'offrir une séance d'exercice à moins 10, moins 15 ou moins 20?
Bien, là, l'hiver, on n'en a pas dehors. Nous, c'est plus à l'automne, au printemps. Printemps, été jusqu'à l'automne. L'hiver, il n'y en a pas. Ce que je fais l'hiver, c'est que moi, je continue en donnant du virtuel. Donc, la MRC a une banque de cours qu'on a fait pour les personnes de 50 ans et plus. C'est des cours qui sont accessibles sur le site de la MRC. Ils sont toujours disponibles en ce moment. Et puis, moi aussi, de mon côté, en privé, avec Facebook, je fais des cours gratuitement en ce moment pour mes élèves pour qu'ils puissent continuer à garder la forme et surtout garder le moral.
Merci, Céline Guerrier. Puis, il me semble que, tu sais, on t'a juste parlé puis on se sent déjà mieux, me semble.
Imaginez quand on suit les cours.
Imaginons. Merci beaucoup, Céline Guerrier. Puis.
Au revoir.
Comment garder le moral après 2 ans de pandémie? On se tourne du côté d'un populaire directeur d'école passer de Martel à Bernard Guerrier-Py. Bon midi, Patrick Lamotte.
Bon midi, ça va bien.
Oui, as-tu aimé ça que je dise populaire, directeur d'école?
Ben, par le temps qui court, je communique souvent avec les parents. Donc, je vais être populaire ou impopulaire. J'espère que c'est plus populaire. On va essayer de ne pas tirer sur le messager.
Est-ce que tu as su, Patrick, conserver ta bonne humeur après 2 ans de pandémie?
Ben absolument. Puis ce matin, surtout, là, nos élèves qui reviennent à l'école, là, moi, tant aussi longtemps que je fais ce travail-là pour les élèves, ma bonne humeur est au rendez-vous. Quand on a des élèves dans l'école, c'est sûr qu'on est capable de donner un service qui est plus en lien avec notre mission, là, que de voir les élèves ce matin, et même avec toutes les directives ministérielles et les mesures sanitaires qui sont en place, d'avoir des élèves qui sont de bonne humeur, qui ont le goût de voir leurs amis, parce que l'école, c'est aussi ça.
Oui, c'est ça. L'école en présentiel reprenait ce matin. Là, elle devait reprendre hier, mais il s'est passé quelque chose. Une bonne tempête a tombé sur le Québec. Est-ce que tu as senti qu'élèves et enseignants étaient heureux de se retrouver en vrai?
Ah, c'est unanime. C'est unanime. Tous les membres du personnel... On va pas se cacher qu'il va falloir avoir un niveau de bienveillance assez élevé, là, puis que les gens sont quand même anxieux, qui sont inquiets. Ils se demandent aussi ce qui va se passer avec les différentes éclosions possibles dans les écoles. Puis ça, c'est normal de les comprendre. Puis c'est sûr qu'il faut s'adapter, mais tout le monde est hyper content, autant les élèves qui sont ici ce matin que les membres du personnel de se revoir. Là, il y a des élèves qui n'aiment pas l'école de façon démesurée, mais qui avaient quand même envie de revoir leurs amis. Là, j'ai circulé ce matin sur le plancher, puis les élèves étaient contents de se revoir.
Tu sais quoi? Moi, je connais des élèves qui aimaient ça, l'école en ligne. Puis pas pour foirer, là. Ils aimaient ça, ils étaient dans leur petit cocon, là, et puis ils détestaient pas ça.
Oui, bien absolument. Puis je pense qu'on a réussi à offrir un service de bonne qualité ici, avec tous les moyens technologiques qu'on a déployés. On a quand même remis pratiquement 300 équipements technologiques, iPad pour les élèves. Les élèves ont suivi en grande majorité avec beaucoup de présence ou d'assiduité lors de leurs cours. Il y a toujours des élèves, on se demande s'ils sont là de corps et d'esprit, mais ils restent qu'en bout de piste. La grande majorité de nos élèves, ils ont été présents, assidus, puis ils ont fait le travail qui était demandé, mais c'est une autre réalité. Il y a des élèves qui ont apprécié. Ça fait une semaine, c'est sûr que si ça avait duré des semaines et des mois, là, on parlerait d'autre chose.
Ouais. Est-ce qu'il en manque beaucoup aujourd'hui d'enseignants et d'élèves retenus chez eux par la COVID?
Non, nous, pas tellement. On est, au niveau des membres du personnel, on est agréablement surpris. C'est sûr que là, on va voir plus dans les prochaines semaines comment ça va se déployer, mais agréablement surpris du peu d'élèves et de membres du personnel qui sont absents. En lien avec la COVID, mais en lien avec toutes les autres causes aussi. Là. On parle de la COVID, mais il peut y avoir aussi d'autres situations qui mènent à de l'absentéisme. Puis on a un très bon taux de présence aujourd'hui là, dans notre établissement. Je ne parlerai pas pour mes autres collègues, là, mais pour nous, c'est une situation qui est pour le moment très enviable.
Est-ce que la COVID, c'est une épée de Damoclès qu'on sent continuellement peser sur sa tête à BG?
Bien, je dirais que dans les premiers mois, oui, plus. Présentement, on s'est habitué à être résilient puis à vivre avec. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on a perdues. On va vivre avec des pertes. Là. Le parascolaire, actuellement, c'est une des pertes qui est importante. On a hâte que ça revienne parce que la vie scolaire, c'est plus que maths français, anglais et autres matières. C'est aussi toute la vie éducative qui se passe entre nos murs. Puis ça, c'est une perte. Maintenant, on s'habitue à des allers-retours. On a des gains, on a des pertes, on fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière. C'est plus cette valse-là que de considérer ça comme une épée de Damoclès. Au final, on est capable de s'ajuster. Puis les adultes, c'est nous autres qui doivent s'ajuster puis être sécurisants pour les élèves surtout.
Mais merci beaucoup, Patrick Lamotte. Lâchez pas.
Ben merci pour l'entrevue, puis au plaisir.
Au plaisir. On passe du secondaire au CPE. On retrouve au CPE des Marguerites, Annie Kessy, qui est éducatrice à la petite enfance. Comment va le moral, Annie?
Bonjour. Pour ma part, moi, ça va très, très bien. On s'en sort ici au CPE de magnifique façon. On a eu quelques éclosions, mais sinon, en général, on tient le cap. C'est ça. Premièrement, là, je voulais juste féliciter tous les CPE, les garderies privées, les milieux familiaux, le personnel, les membres du CA pour toutes la capacité de résilience dans tout ça. Puis c'est ça, je voulais en premier de tout faire ce constat-là, puis c'est ça, de les féliciter, parce que nous, on tient le fort, il faut le dire, depuis la première journée, le 13 mars, nous autres, on n'a jamais arrêté, fait que c'est ça. Je ne sais pas si tu as des questions, je suis là.
Ouais. J'en ai quelques-unes. Alors, votre morale à vous va bien, vos consoeurs aussi, ça file bien, hein?
Moi, j'ai la chance d'être dans un milieu extraordinaire. Dans le fond, notre directrice est très, très accueillante, très chaleureuse. Puis c'est toute elle, dans le fond, qui assume les nouvelles règles que le gouvernement, annonce régulièrement. Bien, elle doit mettre sur ses épaules toutes ces annonces-là. Puis après ça, elle réussit de magnifique façon à tout rendre ça possible. Puis les parents aussi ont bien embarqué dans tout ça, tu sais, avec toutes les nouvelles mesures qui arrivaient là sans arrêt. Les parents ont été très résilients là-dedans, puis compréhensifs. Puis c'est ça. Puis pour de vrai, on a une belle équipe qui s'ajuste à chaque changement. Une fille manque parce qu'il y a des cas, il y a un cas de COVID. Ben écoute, on change nos pauses, on change nos façons de faire. Il y a jamais les filles jamais que je sens une argumentation. C'est une belle équipe soudée, puis de belles entraides, beaucoup d'entraide dans l'équipe.
Est-ce que c'est difficile après 2 ans, Annie, de s'habituer aux mesures sanitaires et à la distance que ça crée nécessairement entre l'enfant et l'éducatrice?
En CPE, on peut pas établir de distance. C'est pour ça qu'on a notre masque depuis le début.
Ben déjà, on disait le masque, ça va être une barrière entre l'éducatrice et l'enfant. Est-ce que ça se révèle, ça? Ça s'avère ou finalement, ça se vit plutôt bien?
Je vais vous le dire, le gros obstacle pour nous, c'est vraiment au niveau, mettons, des activités au niveau du développement du langage. Vous comprendrez que les enfants qu'on doit développer plus à ce niveau-là, là, qui ont un petit retard, c'est difficile pour nous là, d'acquérir ces connaissances-là, là, parce que là, on a notre masque. Hein? Puis la reconnaissance des émotions aussi, hein, si on est caché, les 5 ans et moins, reconnaître les émotions, c'est des choses, des notions très importantes dans leur développement. Puis nous, on a un masque. Fait que c'est moins évident. Mais pour les 3 ans et moins, par exemple, eux, là, ils sont nés avec le masque. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Eux, c'est ça leur réalité.
Ben oui, ils ne connaissent pas autre chose.
Oui. Puis, tandis que, c'est ça, les autres enfants, c'est magnifique parce que les enfants restent des enfants. Puis, ils ont une belle capacité d'adaptation. Puis, dans le fond, nous, les éducatrices, on n'a jamais changé notre façon de travailler. Hein. On a toujours resté aussi enthousiastes. Aussi, les éducatrices que je travaille amènent du beau matériel enrichissant. Ils n'ont jamais arrêté d'émouvoir les enfants dans leurs activités. Fait que les enfants restent des enfants. Hein. Ils sont aussi émerveillés, masque ou pas, COVID ou pas. C'est ça qui est magnifique, puis c'est ça qui nous aide à passer au travers. Pour moi, les enfants, c'est une thérapie. Ils m'aident toujours à me dire, Annie, on profite d'être du moment présent. C'est juste ça qu'ils ont besoin, c'est qu'on profite de chaque moment, chaque chose, chaque objet, puis on se développe là-dedans.
Annie Cassie, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup, puis continuez votre beau travail.
Merci, puis je voulais juste dire rapidement, les filles et les garçons, les gens qui ont envie d'aller dans notre domaine, allez-y, c'est un beau travail. Il y a plein de mesures en place pour que vous puissiez accéder à ce beau métier-là. Puis je vous encourage fortement, c'est magnifique notre travail. C'est ça.
Un beau message. Merci, Annie.
Merci.
Joël Laroche, qu'on va maintenant rejoindre au service des loisirs de Sorel Tracy. Bon midi, Joël.
Bon midi, Sylvain. Merci pour l'invitation.
Comment ça va?
Ben ça va bien.
Ouais?
Ben oui. Elle est là pour garder le thème du midi.
Les plaisirs d'hiver nous proposent jusqu'au 20 février de sortir de la maison et jouer dehors. Ça devrait être excellent pour le moral.
Ben, en fait, on le pense bien. L'idée, c'est de s'offrir des pauses, hein, si on veut. Si on veut sortir de la solitude, si on veut briser l'isolement, se remettre une humeur agréable et comme telle, je pense qu'il faut se permettre de sortir. Puis, c'est un peu ce que Plaisir d'hiver offre à la population, en fait, des petites occasions de sortie au parc, sur des sentiers déneigés, dans les parcs de quartier. On est à regarder, là aussi, pour proposer des animations qui vont respecter les règles, évidemment, là, dictées par la santé publique.
Bon, c'est justement, je voulais faire le tour un petit peu avec vous du menu. Moi, ce que je comprends des plaisirs d'hiver, là, c'est que c'est des jeux de société géants, des rallyes, des jeux sportifs sur neige.
Bien, évidemment, c'est ça. Hein, depuis le dernier hiver, en fait, on a dû moduler autrement là, nos plaisirs d'hiver. On était habitué par le passé avec une fête des neiges, d'un gros événement. Là, on y va plus dans les petites animations. Donc, Carré Royal, pendant 6 samedis, ça a débuté le samedi qui vient de passer, le 15 janvier, donc jusqu'au 19 février. On profite des séances de patinage libre, là, où les gens sont déjà habitués d'aller, pour animer la place centrale par l'ajout de jeux de société géants, de jeux sportifs sur neige, de jouets pour faire des châteaux de neige là, comme tel. Tout ça où les familles ou entre amis vont pouvoir profiter, toujours dans le respect, évidemment, des mesures sanitaires.
On a eu une bonne bordée hier. Il y a aussi cette invitation pan-québécoise, là, qui n'est pas juste locale, à participer au défi château de neige. Ça consiste en quoi, ça? Puis ça marche comment?
Bien, en fait, dans la brochure là, des plaisirs d'hiver qu'on peut retrouver là, sur le site web de la ville de Sorel-Tracy, il y a un lien qui nous dirige vers la campagne là, nationale Défi Château de neige. L'idée, c'est soit sur le terrain résidentiel ou dans un parc de quartier, c'est vraiment de concevoir un château de neige. Donc, je veux dire, en sécurité, évidemment, on évite les tunnels et tout, mais de faire des châteaux forts, de se prendre en photo, puis d'aller la déposer sur le site là, de la campagne nationale Défi Château de neige. Et on peut se mériter, là, le tirage aura lieu début mars, on peut se mériter des prix là, nationaux et régionaux.
Ah, ben c'est le fun. Merci Joël, c'est un plaisir d'hiver de te parler.
Ben, c'est toujours un plaisir Sylvain, merci beaucoup.
Merci, salut bien. Jessica Miro est dans le domaine de la restauration. Comment vous filez, Jessica, au Belvédère, là, de vous êtes encore fait fermer comme tous les restaurants, votre salle à manger en décembre?
Ah, ben le moral est bon, mais le restaurant est déçu.
Le restaurant est déçu, le moral est bon. Oui, votre moral est bon à vous, là?
Oui, il faut.
Avez-vous pu vous-même échapper au virus et à ses variants?
Oui, on s'en sort bien.
La fermeture de la salle à manger, elle vous a sûrement forcé à mettre à pied du personnel. Est-ce que c'est la partie la plus dure, la conséquence la plus ingrate de cette pandémie pour une tenancière de restaurant comme vous?
En effet, mais c'est ça, ça nous brise le cœur. Tu sais, les employés, l'équipe, c'est comme une famille. Puis, tu sais, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. On a tout bien peur là, que ça dure encore longtemps. Fait que c'est vraiment la partie qui est le plus déchirant parce que sinon, on est encore ouvert. Fait qu'à ce niveau-là, on fait encore ce qu'on aime. Mais heureusement aussi, là, je vais toucher du bois, là, je vais le dire, mon équipe, oui, elle a été mise à pied, mais elle attend. Là. Elle est là puis elle est prête à revenir.
Ça, c'est la hantise. C'est la hantise des restaurateurs. C'est de perdre de très précieux employés, précieuses employées pendant le temps où ils sont à la maison à se tourner les pouces. Là.
Oui, en effet. Puis on peut les comprendre. Là, après 2 ans, là, on est quand même le domaine, un des domaines en tout cas, qui a été le arrêté le plus longtemps. Puis il y en a beaucoup qui ont réorienté leur carrière. Puis à leur place, j'y aurais pensé aussi, mais comme je dis, on est une famille, puis on essaie de se tenir ensemble malgré là, la distance.
Bon, sinon, il y a la place qui est vide, les chaises qui sont vides, les tables qui sont désertes. Vous avez beau offrir des commandes pour emporter, ça ne met pas la même ambiance dans place que des clients qui discutent autour d'un bon plat. Ça doit vous manquer, la présence du monde, hein?
Vraiment. Par choix, c'est sûr qu'on ferait pas ça. Là. Par choix, on resterait pas comme ça. Les clients, le service, c'est ce qui fait qu'on aime ce qu'on fait aussi, outre la nourriture. Là.
Avez-vous espoir d'une réouverture prochaine?
En toute honnêteté, là, je vous dirais que j'en avais pas un. Pour être franche, je suis très optimiste dans la vie, mais cette fois-ci, j'aimais mieux me mettre une date loin. Mais j'ai fait un petit concours sondage sur ma page Facebook, puis... Les clients m'ont redonné espoir là, dans les prochaines semaines. Là, je vais me rallier à leur date là, qui comme fin janvier, mi-février. Là. ça me ferait bien plaisir.
Est-ce que c'est difficile de garder financièrement la tête hors de l'eau? On a vu des restaurants fermés dans la région de Montréal, notamment. Là.
En effet, c'est vraiment pas la situation idéale. Je pense que ce qui permet de garder la tête froide, là, c'est vraiment de regarder au loin. De savoir si on a passé à travers 8 mois l'année passée, jamais je vois. C'est impossible qu'on soit encore 8 mois arrêté. Fait que j'ai vraiment de regarder vers où on s'en va, puis ce qui s'en vient permet de garder là, un esprit positif, je pense.
Merci beaucoup, Jessica.
Merci à vous.
Conservez le moral. Si c'est pour vous l'heure du lunch, bon appétit.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci, Jessica. Après la pause à la tribune, Alexandre Vauvent. Je pense qu'on va manger encore. Virginie Fredette et Sylvain Dupuis.
Envie de débuter l'année 2022 en beauté? Passez chez Meubles André Beaulieu. Qu'il s'agisse de mettre à jour vos électroménagers ou de vous offrir un tout nouveau décor, nous avons ce qu'il vous faut. Notre équipe d'expérience sera vous guider pour trouver les meilleurs produits tendance à des prix imbattables. Profitez des meilleures marques sur le marché pour rehausser toutes les pièces de votre maison et bénéficiez de la livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Laissez-vous inspirer dès maintenant en nous visitant à notre succursale du boulevard Poliquin ou au meublebeaulieu.ca. Chez Lucier Dale Parisot, nous travaillons à trouver la meilleure façon de protéger les actifs humains et financiers de nos clients. Lucier Dale Parisot offre aux familles, aux propriétaires d'entreprises, ainsi qu'à ces mêmes entreprises, un portefeuille complet de solutions en matière de protection, d'assurance et de services financiers. En fait, nous sommes reconnus comme des conseillers de confiance. Avec Lucier Dale Parisot, votre tranquillité d'esprit est assurée. Lucier Dale Parisot, présent à travers la province pour mieux vous servir. Lucier Dale Parisot, le plus important courtier d'assurance au Québec.
C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu et de Lucier Dale Parisot.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
À La Tribune, ce midi, gardez le moral. Comment le conserver après 2 ans de pandémie? On va demander à Alexandre Vauvent ces trucs. Bon midi, Alexandre.
Oui, bonjour, Sylvain.
Avez-vous le moral, Alexandre?
Toujours.
Bon. Quand je t'ai joint pour ta participation à cette émission, tu venais de passer quelques jours dans le bois, sans eau courante, sans électricité, pas parce que tu parvenais pas à retrouver ton chemin, mais par choix, reconnecter avec la nature, c'est un bon truc, ça, pour se remonter le moral?
Oui, tout à fait. En fait, il y a la nature, il y a le plein air, mais c'est aussi le fait, parfois, de vivre des choses qui sont parfois un peu plus difficiles que dans notre quotidien. Comment je pourrais dire? C'est après ces moments-là qu'on réalise qu'on est choyé. Quand on est revenu chez nous après ça, je peux te dire qu'on était très content de retrouver une douche, trouver de l'eau chaude. Alors, tu sais, c'est quelque chose que je partage avec ma conjointe, un genre de philosophie où on va tirer le meilleur du pire là, dans un certain sens.
Donc, en
vivant des choses plus difficiles qu'on réalise qu'on a quand même des bonheurs dans la vie.
Où es-tu allé te cacher dans le bois? Est-ce que avais-tu un camp là où tu étais sous une tente ou tu t'es construit un igloo?
En fait, c'était un petit camp de pêche. Et quand on dit un camp de pêche, c'est vraiment ce qu'on appelle communément le shack au Canada. Et c'est vraiment une cabane en bois avec un petit poêle à bois et en plein milieu d'un bois. Donc, c'était même pas au bord du... C'était proche du lac William, mais c'était pas à côté. Je suis allé là-bas pour pouvoir installer mon abri de pêche sur le lac William et effectivement, à moins 30 degrés, mardi dernier, j'étais sur le lac William en train de pêcher. Là. Mais le shack, comme on dit, c'est vraiment juste un arrêt, un refuge.
D'accord. T'as un côté, moi j'appellerais ça, là, je vais trahir mon âge, t'as un côté Daniel Boone, toi, Alexandre. Tu connectes avec la nature en t'adonnant à la pêche aussi. Tu as même, avec ta douce, fondée à Saint-Ours, sur les bords de la Richelieu, l'échoppe de pêche.
Oui, oui. Puis c'est un peu paradoxal parce que je travaille aussi comme enseignant en informatique qui est totalement à l'opposé, là, où on travaille beaucoup le virtuel. Mais je crois que dans cette à cette époque où on est beaucoup dans les réseaux sociaux, dans le virtuel, dans le regard des autres, c'est très important de se reconnecter. Et il n'y a rien de mieux que la vraie vie, la nature, la terre, les matériaux de base pour se reconnecter.
Une autre passion que tu cultives avec Amélie, avec les Vauvents, c'est une page Facebook et un site web. C'est celle de la culture, cette passion-là, celle de la culture et de la cuisine vietnamienne, bien manger et cuisiner. Ce que l'on mange, ce serait un autre bon truc, ça, pour garder le moral?
Oui, absolument, parce que c'est la nourriture, hein, c'est quand même quelque chose de primordial dans la vie. Et si on peut se faire plaisir en mangeant, je crois que ça donne une autre vision de la vie. Et souvent, lorsqu'on fait cet effort-là de bien cuisiner pour avoir une recette authentique ou avoir un goût bien précis, on passe à travers un processus. Et c'est le processus, c'est on met un effort pour pouvoir faire une belle recette et cet effort-là devient une récompense. Alors que des fois, on voit la vie comme une suite d'efforts constants et on ne sent pas la récompense qui vient avec. Mais lorsqu'on mange, ben la récompense, elle est là. Donc, ça nous reconnecte avec ça, avec le fait que l'effort, l'énergie qu'on met, la passion qu'on va avoir à faire quelque chose, mais elle est toujours récompensée. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est à la base même du bonheur et c'est important d'en avoir à petite dose, un peu tous les jours.
Tu es un grand philosophe. Merci beaucoup, Alexandre Vauvent. Merci beaucoup.
Mais merci, Sylvain.
Merci. Virginie Fredette est intervenante, elle, chez Santé mentale Québec, Pierre de Sorel. Bon midi, Virginie.
Bonjour, M. Rochon.
Comment est la santé, Virginie?
Ça va bien, ça va très bien même.
As-tu pu échapper, toi, au virus et à ses variants?
Absolument.
Ben oui, j'ai pas un invité à date, pas une invitée qui a attrapé la fameuse COVID.
Ben, on croise les doigts pour que ça reste comme ça.
Ben oui. Se soucie-t-on suffisamment, Virginie, de sa santé mentale ou n'en a-t-on que pour sa santé physique encore en 2022?
Bien, honnêtement, je pense que de plus en plus, c'est on dit souvent déstigmatiser, mais en fait, on en parle de plus en plus, grâce et malheureusement, mais à cause de la COVID, depuis la pandémie, on en parle de plus en plus de la santé mentale. Puis je pense que ça va peut-être conscientiser les gens à justement à prendre conscience tout simplement que la santé mentale, bien, c'est aussi important que la santé physique. Donc, c'est ce que je pense.
Cette pandémie qui s'étire là depuis près de 2 ans, qui nous commande de prendre nos distances, qui nous coupe de certains de nos loisirs, c'est pas facile ça pour la santé mentale?
Non, ça c'est certain. C'est sûr que c'est, disons, différent de la vie à laquelle on était habitué, mais justement c'est par des trucs, comme on va parler aujourd'hui, puis comme plusieurs ont parlé déjà, mais c'est en s'adaptant, justement. Personne n'est content de la situation actuelle. Je pense que personne se dit « Youpi, ça arrive », mais en même temps, il y a tellement de façons de s'adapter à cette situation-là, malgré tout. Je pense qu'il y a moyen, justement, là, de voir la lumière au travers de tout ça.
OK. Avez-vous deux petits trucs, deux, trois petits trucs à nous donner pour filer mieux moralement?
Ben oui, j'en ai plusieurs. J'ai retranché ça en quelques trucs. Ben en fait, l'idée générale, c'est de prendre soin de soi. Donc, ça va avoir l'air cliché, mais j'en reviens aux bases, donc de maintenir de saines habitudes de vie. Selon moi, c'est essentiel. Je le pratique moi-même. Je le suggère aux personnes avec qui j'interviens. Donc, vraiment de faire le bilan là, par rapport au sommeil, à l'alimentation, aux activités physiques là, qui sont pratiquées régulièrement. Donc, premier truc, ce serait ça, les saines habitudes de vie. Ensuite, ça aussi, c'est un truc que je suggère souvent, mais c'est d'identifier ce qui nous fait sentir bien. Donc, ça nous permet d'en prendre conscience. Ce ce que je veux dire par là, en fait, c'est de porter attention aux choses simples du quotidien, que ce soit de rire, de parler avec quelqu'un, d'aller marcher, écouter de la musique, ou comme M. Vauvent l'a mentionné, donc manger quelque chose qu'on aime. Tous ces plaisirs-là de la vie, ben ça nous fait réaliser, quand on en prend conscience, qu'il n'y a pas juste la pandémie, il y a du bon aussi. C'est pas que négatif ce qu'on vit. Donc ça, c'est... Ah, allez-y.
Non, je vous laisse continuer, vous êtes bien parti là.
J'ai bientôt terminé. Et disons, le troisième point, ben respecter nos limites. Honnêtement, il faut savoir établir nos priorités, disons, dans une journée donnée, une journée X. On établit ce qui est prioritaire, puis le reste, ben, ça peut aller à un autre moment. C'est d'être capable de dire non quand on sent que ça dépasse nos limites. Ça, c'est de faire preuve de bienveillance envers soi-même. Puis je pense que c'est vraiment primordial.
Comment pouvez-vous nous aider chez Santé mentale, Pierre de Sorel? Là, vous le faites en passant, en nous parlant ce midi, mais oui. Comment autrement pouvez-vous nous aider à ne pas sombrer dans le désespoir? Est-ce qu'il y a des services auxquels on peut avoir accès chez vous?
Bien, absolument. En fait, tout d'abord, notre mission chez Santé mentale Québec, Pierre de Sorel, c'est de promouvoir, soutenir et outiller la population en termes de bien-être psychologique. Donc, nous, on le fait de façon hebdomadaire là, par le biais de groupes de discussion. Des activités plus ludiques, là, comme des jeux de société, il y a des tricoteuses qui viennent également. On donne des ateliers de formation et on distribue nos outils éducatifs qui permettent d'en apprendre plus sur la santé mentale. Donc ça, c'est notre apport, résumé très courtement, mais c'est notre apport là, dans la région là, pour aider les gens à garder le moral.
OK, un numéro de téléphone pour vous joindre à Santé mentale Québec, Pierre de Sorel?
Oui, donc le 450-746-1497.
Répétez-le donc une autre fois.
Le 450-746-1497.
Merci, Virginie. Ça nous a fait du bien de vous parler.
Ben moi aussi. Et merci beaucoup de m'avoir invité, M. Rochon.
Ça m'a fait plaisir. On va se reprendre, là.
Oui.
Excellent. Bon, Sylvain Dupuis maintenant. Sylvain Dupuis quittait cet été la Chambre de commerce pour diriger le Centre de crise et de prévention du suicide de la Traversée. Comment ça va, Sylvain?
Ça va bien, toi aussi, Sylvain.
Ouais, le méchant Omicron, ça a l'air, vous a sauté dessus, vous, comme la misère sur le pauvre monde?
Oui, bien écoute, des bonnes sources. Oui, j'ai eu droit au Omicron chez nous pendant la période des fêtes. Ça m'a permis de me reposer. C'est un bien pour un mal. Hein.
Ouais, c'est-tu vrai, ça, que c'est un petit rhume ou pour vous, ça a été plus une grippe d'homme?
Écoute, j'aimerais ça pouvoir dire que c'était une grippe d'homme et que j'avais besoin d'aide, mais vu que la famille au complet l'a eu, j'étais mal placé pour me plaindre.
C'est vrai, la famille au complet l'a attrapé?
Oui, c'est ça, on a eu droit à ça.
Est-ce que ça vous a beaucoup magané?
Non, honnêtement, ça a bien été, mais il faut dire qu'on est nous, on est une famille vaccinée, on a respecté les règles, on s'est isolé, mais c'était assez bien, merci.
OK. Est-ce que ça se sent à la traversée sur le nombre d'appels que la COVID a entamé le moral des Sorellois?
Ben oui, je suis obligé de dire oui. Ben, il y a la COVID, il y a la pandémie, il y a la période des fêtes, il y a les restrictions sanitaires. Le gouvernement a pris la responsabilité de limiter là, avec le couvre-feu. Donc, c'est sûr que ça a joué sur le stress et l'anxiété des gens. Puis c'est tout à fait normal après presque 2 ans de pandémie qu'on en ressent encore des douleurs. Puis ben la traversée, ben elle a été présente toute pendant la période des fêtes pour rendre des services.
Alors, il y a de vos interlocutrices et interlocuteurs au bout du fil, là, à la traversée, qui disent à vos intervenantes, qui désignent le coronavirus comme responsable de leur déprime?
Oui, c'était nommé. C'est un tout, hein. C'est souvent la situation, le fait d'être isolé. Déjà, on le sent. Tu faisais un aparté sur ma situation. Moi, je suis en famille avec ma conjointe, mes enfants. Même si on est isolé, on a quand même un soutien entre nous. Mais imaginons ceux qui ont moins d'amis, moins de famille, plus isolés. Donc, c'est sûr que le contexte de la pandémie joue un rôle dans tout ça. Puis, évidemment, mais tu sais, ça touche tout le monde. Hein. C'est, peu importe qui tu es dans la population, peu importe la strate que tu occupes, ta situation financière, que tu aies un emploi ou pas, c'est normal. Ça peut être compréhensible qu'on subit un stress, une anxiété par rapport à la situation.
La traversée, c'est un centre de crise et de prévention du suicide. Dans le lot d'appels que vous recevez, il n'y a pas juste des gens un peu découragés. Il y en a qui sont vraiment très découragés, j'imagine.
Exactement. Ben écoutez, dans l'échelle des appels reçus, on a la maman qui s'inquiète pour son garçon ou sa fille, puis qui c'est peut-être bénin à cette situation-là, jusqu'au cas le plus grave, là, que la personne a vraiment besoin d'aide, besoin de soutien, besoin d'accompagnement, besoin de parler. Donc, évidemment, on a tout, puis entre les deux, mais il y a plein d'autres exemples de cas qui rentrent en ligne de compte. Ben la traversée est là pour ça, est là pour t'entendre, parler, te proposer, t'inviter, puis surtout t'accompagner dans ce que tu vis présentement.
Ouais, il y a ce fameux slogan là, qui est apparu au début de la pandémie, « Ça va bien aller ». Est-ce que vous dites ça à votre monde, « Ça va bien aller » ?
Je te mentirais que je n'utilise pas ça, mais je pense que quand tu fais déjà l'action d'appeler, parler à un ami, parler à ton frère, à ton collègue de travail ou à un intervenant en traversée, déjà là, tu travailles pour que ça aille mieux. Donc, tu sais, ça va bien aller. C'est un début de soi de vouloir parler puis échanger puis pas garder ça en dedans tout seul dans ta pénombre. C'est important de comprendre que tu n'es jamais seul puis il y a toujours des solutions à des problèmes.
Merci, Sylvain. Le numéro pour joindre la traversée.
Bien, la traversée, on peut nous rejoindre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On ferme jamais, jour et nuit. Donc, c'est le 450-746-0303. Ou si tu es à l'extérieur, 1-866, appel. Il y a quelqu'un qui va répondre au téléphone.
Bon, redonnez donc une autre fois le numéro local, là.
450-746-0303.
Merci beaucoup, Sylvain Dupuis. Merci.
Ça fait plaisir. Au revoir.
Au revoir. Après la pause, Chantal Côté, Sylvain Guimond et Micheline Charon.
Envie de débuter l'année 2022 en beauté? Passez chez Meubles André Beaulieu. Qu'il s'agisse de mettre à jour vos électroménagers ou de vous offrir un tout nouveau décor, nous avons ce qu'il vous faut. Notre équipe d'expérience sera vous guider pour trouver les meilleurs produits tendance à des prix imbattables. Profitez des meilleures marques sur le marché pour rehausser toutes les pièces de votre maison et bénéficiez de la livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Laissez-vous inspirer dès maintenant en nous visitant à notre succursale du boulevard Poliquin ou au meublebeaulieu.ca. Chez Lucier Dale Parisot, nous travaillons à trouver la meilleure façon de protéger les actifs humains et financiers de nos clients. Lucier Dale Parisot offre aux familles, aux propriétaires d'entreprises, ainsi qu'à ces mêmes entreprises, un portefeuille complet de solutions en matière de protection, d'assurance et de services financiers. En fait, nous sommes reconnus comme des conseillers de confiance. Avec Lucier Dale Parisot, votre tranquillité d'esprit est assurée. Lucier Dale Parisot, présent à travers la province pour mieux vous servir. Lucier Dale Parisot, le plus important courtier d'assurance au Québec. La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu et de Lucier Dale Parisot.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
À l'émission aujourd'hui, gardez le moral. Comment, après 2 ans d'une pandémie qui n'en finit plus, conserver le moral? Lecture, plein air, sport, cuisine, activité familiale, yoga, méditation. On fait quoi pour rester zen? Chantal Côté est yoga-thérapeute, suppléante aux primaires. Elle prête son concours à la clinique de vaccination. Bonjour, Chantal.
Bien, bonjour, Sylvain.
Comment vas-tu? Comment est ton moral?
Ah, moi, ça va super bien. Si tu m'avais demandé ça il y a 2 ans, ça aurait été différent, là, mais cette année, ça va bien.
Ah, toi, ça allait moins bien avant la pandémie qu'après?
Disons, quand la pandémie est arrivée, là, moi, comme j'ai perdu mon entreprise, fait que c'est sûr que c'était un gros deuil, hein. Alors, tu sais, quand ça fait 27 ans que tu travailles à ton compte et puis que tu te retrouves, tu dois tout, ce fut difficile, mais bon, on passe à travers, c'est tout. Hein?
Je faisais la liste de tes occupations. Est-ce que ton secret pour garder le moral, c'est de t'occuper l'esprit?
Bien là, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai fermé mon école de yoga, parce que j'avais une école de yoga, donc j'ai fermé, j'avais une équipe de professeurs et tout, et ça, c'était juste avant la deuxième vague, j'ai pas été capable de passer à travers, donc là, j'ai pas eu le choix de, j'ai dit, je vais continuer de faire du yoga, mais plus comme un sideline, si on veut dire, là, et j'ai commencé à faire une recherche d'emploi, et ce qui est drôle, c'est que quand j'ai fait mes recherches d'emploi, j'ai envoyé plein de CV et tout, puis j'ai reçu l'acceptation de 2 emplois en même temps, qui étaient de la commission, le centre de services de Sorel-Tracy, là, comme suppléante, et la clinique de vaccination.
On va reparler de ces deux-là, enseignante et travail à la clinique de vaccination. Avant ça, le yoga que tu pratiques et enseignes, est-ce que ça aide à rester zen?
Oui, ben moi, dans le fond, c'est sûr que moi, mon créneau est différent parce que j'enseigne du yoga thérapeutique. Donc, moi, c'est pour les personnes, comme ça fait plusieurs années que j'enseigne à ceux qui ont le cancer. J'ai enseigné aussi en psychiatrie, à ceux qui ont la sclérose en plaques, les douleurs chroniques. Alors, moi, c'est plus mon créneau. Mais il y a beaucoup de méditation. Moi, ce qui m'aide beaucoup, là, si j'avais pas eu mes outils, surtout la méditation, les respirations, parce que quand on a de l'anxiété, c'est pas une posture de yoga qui va t'aider. C'est plus la méditation et les respirations, par exemple. Donc ça, c'est sûr que moi, si j'avais pas eu ça, là, je pense que j'aurais sombré dans une profonde dépression. Vraiment, là. C'est vraiment bon, mais c'est sûr qu'il y a d'autres choses aussi. Hein. Il y a l'humour, il y a, tu sais, comme on dit, certaines personnes, l'activité physique. Mais moi, je pense que ce qui m'aide le plus, là, à garder ma résilience, c'est la gratitude puis le contentement. Tu sais, j'essaie toujours de me comparer quand je suis vraiment déprimée, là, ou tu sais, je me dis, il y en a qui sont pires que moi. Tu sais, comme, par exemple, le masque de procédure, c'est faut s'entendre, c'est pas toujours agréable de porter ça, surtout quand tu le portes toute la journée, mais je me dis, si tu le compares en Afghanistan, les femmes, eux autres, là, c'est un sac de patates qui doit se mettre sur la tête, je m'excuse l'expression, mais c'est ça que ça a de l'air, la burqa, là. Alors, je pense qu'eux autres, ils aimeraient beaucoup plus porter un masque de procédure que ce qu'ils doivent porter maintenant à cause des talibans.
Tu prêtes ton concours à la clinique de vaccination. Ce qui m'a frappé, moi, à mes trois visites à cette clinique pour chacune de mes doses de vaccin, c'est chaque fois la même chose. Il se vit là une grande solidarité. On sent qu'on fait partie d'un tout, d'une communauté, qu'on n'est pas seul. Ça peut faire du bien à l'âme de sentir cet esprit de communauté?
Ah oui, ben c'est sûr que moi, comme je dis, moi, on m'a rappelé parce que moi j'ai travaillé à l'été, ok, parce que là, l'école était terminée, donc j'ai travaillé à l'été, puis après ça, quand c'est terminé, tu sais, je veux dire la deuxième dose vers la fin du mois d'août, il restait plus grand chose, donc moi je suis retournée à l'école plus juste comme suppléante, et puis on m'a téléphoné le 21 décembre, parce qu'il manquait vraiment beaucoup de monde. Moi, je suis agente administrative et j'ai recommencé à travailler le 26, donc mon congé scolaire a été réduit un peu, mais je sens que c'est un effort collectif, là. Alors, et toutes les gens sont comme ça. Toutes les gens, là, vraiment, tout le monde donne le plus qu'ils pouvaient donner, là. Alors, oui, parce que là, tu te sens que t'es utile et puis... C'est ça. Donc, là, je fais les deux. Là, vu que l'école a recommencé, ben, je recommence, je vais partager mon temps entre les deux, là, entre la suppléance et...
Bon, parle-moi donc une minute, c'est le temps qui nous reste à toi et moi, là, des profs et de nos tout-petits. Ils ne l'ont pas facile quand même, là.
Non, c'est difficile pour les jeunes, hein. Surtout les plus petits, tu sais, les premières, maternelles, première, deuxième, tu sais, c'est le port du masque et tout ça, mais ils sont résilients. Ils sont résilients. Vraiment, là, je trouve que les enfants, là, des fois, tu leur demandes ce que ça te dérange de... J'ai déjà demandé ça à des enfants, porter le masque, puis ils ont dit non, on est habitués. Tu sais, je trouve que les enfants sont très résilients quand même, là, mais c'est sûr que c'est pas facile non plus. Parce que là, à chaque fois que... Tu sais, moi, j'ai eu des classes qui ont été fermées, là, aussitôt qu'il y a trop de cas de COVID, on doit fermer des classes. Là, je sais pas ça va être quoi les nouvelles consignes, ça change tout le temps. Mais la saison dernière, c'est ça qui arrivait, là. Tu sais?
Ah, il faut être résilient. Merci beaucoup, Chantal Côté. Puis tiens, je vais vous dire namasté.
Ben, namasté, Sylvain, puis merci pour l'invitation.
Merci. Sylvain Guimond est psychologue sportif et conférencier. Bon midi, Sylvain.
Bon midi, Sylvain.
Comment va le moral? Comment vivez-vous ça, la distanciation sociale dont on ne voit pas trop la fin? Il me semble que vous êtes une bibitte sociale, vous. Alors, ça doit être dur un peu.
Oui, c'est un peu difficile. Surtout que j'étais en tournée pour faire des conférences lorsque ça a débuté. Et j'ai eu 100 conférences d'annulées du mois de mars aller au mois de juin. Et là, je me suis dit... ça va être difficile, comment je vais maintenant changer les choses. Et au mois d'août, au mois de septembre, ça s'est transformé en conférence virtuelle, puis ça fonctionne très bien.
OK. Vous avez écrit ou co-écrit plusieurs bouquins, là, 6 ou 7, me semble. L'un de ceux-là proposait au lecteur de vivre ses rêves. C'est pas mal plus compliqué depuis 2 ans de vivre ses rêves?
Oui, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a tellement d'incertitudes, on vit énormément d'anxiété, comme vos invités avant moi en ont parlé. Puis là, j'ai beaucoup à travailler avec des jeunes qui se préparent à soit faire un saut dans la Ligue nationale ou, et eux, ben c'est difficile parce qu'en ce moment, c'est le moment où ils doivent montrer qu'ils sont capables d'atteindre ce niveau-là, puis ça leur est enlevé. Donc, c'est des moments très difficiles pour eux en ce moment, puis pour moi qui dois les aider, ben notre travail devient encore plus important.
Le bonheur est une question d'attitude. Je vous ai lu, vous avez écrit ça. Il s'agit également d'un choix. Le regard que l'on porte sur les événements, je vous cite toujours, est un choix crucial qui déterminera si oui ou non le bonheur sera au rendez-vous. Quel regard doit-on porter sur la pandémie pour que le bonheur soit au rendez-vous?
Sylvain, vous savez, l'être humain est une drôle de bibitte qui regrette ce qu'il avait que lorsqu'il l'a perdu. Donc, on regrette qu'on était en société, qu'on pouvait faire des rassemblements à la maison avec 20 personnes, et c'est ce qui nous manque. Mais lorsqu'on le faisait, personne ne disait « Hey, on est chanceux, on fait ensemble en ce moment une assemblée de 20 personnes ». Je pense que cette pandémie-là nous a fait comprendre, nous a fait apprécier comment c'est important et comment l'être humain a besoin des uns et des autres pour vivre. Et le bonheur, c'est pas quelque chose qui est individuel, c'est quelque chose qui est partagé. Et c'est pas le bonheur, mais la bonheur. L'heure qu'on passe avec eux, ce qu'on aime, heure et eux, si vous mettez ça ensemble, Sylvain, ça fait heureux. Puis les gens heureux n'ont pas le temps d'être malades, parce que c'est pas la maladie, mais le maladie. Pas avec des mots magiques, mais avec des mots MOTS. Et quand on est heureux, bien, c'est contagieux. Donc, en ce moment, on a besoin de plus en plus de gens, comme votre invité juste avant l'a dit, de rire, d'avoir de la bonne humeur, de faire en sorte que c'est dans les moments difficiles qu'on a besoin d'avoir une attitude qui nous permettent de dire, OK, on va s'en sortir ensemble. Mais pour s'en sortir, on va commencer par dire, OK, mais là, en ce moment, je vais bien. Parfait. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres? Et c'est lorsque j'aide les autres qu'on devient soi-même plus heureux.
Je poursuis en vous citant, lorsque nous faisons face à une crise, à quelque chose qui nous est imposé, que nous n'avons pas choisi, la résilience nous permet de poursuivre nos activités et de se remettre en action. Si nous n'avons pas eu le choix de ce qui est arrivé, nous avons toutefois le choix de notre réaction. Ça demande beaucoup de résilience, cette crise-là.
Exactement. Sylvain, lorsque je parle à des gens qui ont à subir un deuil, le deuil de différentes choses. Pour un athlète, ça peut être la fin de sa carrière, ça peut être une blessure qui fait en sorte qu'il ne peut pas revenir. Pour des gens, c'est un deuil de personnes qu'on aime qui sont décédées. Et dans un deuil, souvent, on dit que les étapes, c'est un, on a un déni. On ne veut pas voir que c'est arrivé. Deux, c'est on a une partie de colère. On a une négociation qui va se passer. Et on dit que c'est la tristesse. Et ensuite, on appelle ça l'acceptation. Je ne sais pas c'est qui la personne qui a mis le mot acceptation dans un deuil, mais c'est pas de l'acceptation. L'acceptation, ça veut dire que je suis en accord avec ce qui arrive. Il y a personne qui est en accord avec cette pandémie-là qu'on vit en ce moment. Et donc, c'est pas de l'accord, mais c'est de la résilience. La résilience, c'est que je n'ai pas le choix. Donc, quand le choix m'est placé, c'est quelque chose que je reçois. Et j'ai pas le choix de dire, ben, je dois passer à travers ça. Le choix que j'ai, c'est de me résilier à rebondir et vivre autrement. Et c'est là l'acceptation. L'acceptation, elle est dans le mouvement. Elle n'est pas dans de rester pris dans cette étape-là sur laquelle on n'a pas de choix. On dit souvent à nos athlètes, contrôle ce que tu peux contrôler puis laisse aller ce que tu peux pas. Mais sur quoi tu as du contrôle, mets ton attention à 100% là-dessus. Et la seule attention sur laquelle on doit porter attention en ce moment, c'est de s'entraider les uns des autres et de savoir qu'éventuellement, on va s'en sortir. Puis on va s'en sortir grandi de ça.
Ouais, ben. Sylvain, c'est peu 4 minutes ou 5 minutes avec vous. On va se reprendre, si vous voulez, un de ces jours prochains.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. Merci. Sylvain Guimond. On termine ce tour d'horizon en compagnie de Micheline Charon, qui œuvre dans le réseau de la santé. Elle est vice-présidente générale du syndicat des travailleurs et des travailleuses du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est. Bon midi, Micheline.
Bon midi, Sylvain.
Comment tu vas?
Moi, ça va. Numéro un, on essaye de passer au travers de cette crise-là avec le sourire. On n'a comme pas le choix.
Ouais. S'il y a des travailleuses et des travailleurs que cette pandémie a soumis à rude épreuve, c'est bien celles et ceux de la santé. Comment se portent-ils? Je vais élargir ça là, à tes collègues aussi. Comment vous portez-vous après 2 ans de pandémie?
Beaucoup de fatigue, beaucoup de gens là qui sont partis ben, on va se le dire, là, il y en a qui sont tombés au combat, on a eu, puis là encore les gens ils ont de la difficulté à revenir, mais par contre on a quand même des salariés qui tiennent le fort, puis ils tiennent très bien le fort. Il y a des gens qui sont là pour la vocation, puis on le sent, malgré cette fatigue-là, là, malgré tout l'épuisement de nos membres, puis de l'ensemble du réseau de la santé, bien, on sent que la vocation est là, puis qu'ils sont là pour la population.
Malgré toutes les mesures, malgré tous les équipements possibles de protection, c'est un travail où il est à haut risque de contracter le virus. Ça ne doit pas être facile de sentir toujours cette foutue épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête?
Effectivement. Et c'est pour ça que la bataille au niveau syndical, je tiens à le dire, on continue la bataille afin de protéger chaque personne qui travaille dans le réseau de la santé. Puis moi-même, tu sais, je vais parler pour moi-même, moi je suis agente administrative dans le réseau, puis moi-même, des fois, j'ai peur de rentrer dans l'hôpital pour ramener ça chez nous. Puis c'est la crainte de l'ensemble des salariés du réseau de la santé.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'absentes et d'absents actuellement dans le réseau?
Oui. On peut dire que oui, là, présentement, oui. Le pourcentage, je n'ai pas les statistiques. Il aurait peut-être fallu que tu m'en parles un petit peu avant, je te les aurais sortis. Mais j'ai pas les statistiques, mais effectivement, il y a beaucoup de gens là qui sont en arrêt de travail là, dû à la COVID.
Le gouvernement fait porter sur les non-vaccinés le poids du délestage dans les hôpitaux. Est-ce que c'est pas une façon de rabrier un problème bien plus profond que ça?
Là-dessus, je pourrais pas te répondre largement, mais je peux te dire que oui, il peut abrier certaines conditions de travail que les salariés vivent, puis qui fait porter sur les non-vaccinés. C'est sûr que nous, puis moi personnellement, j'incite les gens à se faire vacciner, c'est la chance de nous sortir de tout ce bordel-là, c'est présentement de se faire vacciner afin qu'on puisse passer au travers de cette crise-là.
Mais tu sais, c'est quand même pas d'aujourd'hui là, que le réseau de la santé est encombré, là.
Non.
Puis que ça marche sur chapeau de roue, là.
Effectivement.
Ça fait un bout, là.
Ça fait très, très longtemps. Ça fait pas depuis 2020, puis depuis que la CAQ est au pouvoir, là, le Parti libéral en a fait beaucoup, beaucoup Il a fait beaucoup de mal au réseau de la santé, puis surtout avec les fusions, puis tout ça, bien, ça n'a pas aidé non plus à la cause.
Est-ce que vous arrivez, toi et ta gang, à avoir la lumière au bout du tunnel?
Ouais, on essaie. Je dirais franchement, là, on essaie de voir la lumière au bout du tunnel. Tranquillement, tu sais, on essaie de voir le positif au travail de tout ça, là. Personnellement, j'essaie de voir ça, le positif qui va nous avoir amené à une solidarité que j'ai jamais vue, là, parce que, tu sais, on a beau faire des grèves, faire des manifestations, une pandémie amène à une solidarité plus grande qu'on pense. Okay. Fait que nous, on essaye de voir le positif au bout de ça, en espérant qu'on s'en sorte un moment donné.
Merci, Micheline Charon, pas seulement pour l'entrevue, c'est un merci étendu à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs de la santé pour leur immense contribution.
Effectivement, Sylvain, ils le méritent amplement, puis je te remercie de leur avoir donné la parole aujourd'hui.
Merci, Micheline Charon.
Merci.
Merci à l'ensemble de mes invités, Céline Gariépy, Patrick Lamotte, Annie Kessie, Joël Laroche, Jessica Miro, Alexandre Vauvent, Virginie Fredette, Sylvain Dupuis, Chantal Côté, Sylvain Guimond et Micheline Charon. Merci à Laurent Cournoyer pour son appui à la réalisation. La semaine prochaine, à la tribune, la conduite hivernale. À mardi prochain!